Bien, on va commencer cet après-midi. On aime bien faire les choses à l'heure, donc voilà. Après ces interventions de ce matin, qui étaient sur non seulement sur les cadres, mais ce qui s'y passe surtout, hein, et on a entendu des choses tout à fait... tout ce qui est des termes que nous, on emploie, les psys, hein, ben les projections, j'ai entendu, entre autres, même donc dans le judiciaire, c'est très important. On a entendu la première intervention, qui est le dispositif de l'UMJ de l'Hôtel Dieu, de l'UMJ pédiatrique. Et donc, cet après-midi, on va aller faire un petit voyage du côté du soin, du côté du social, et sur des registres un petit peu différents. Mais finalement, ce qu'il y a d'intéressant, et ce pourquoi ces journées sont là, c'est pour justement que, je dirais, les forteresses, les remparts qu'il y a entre les différentes institutions qui s'occupent de protection de l'enfance, ça baisse un petit peu par la connaissance de ce qui se passe ailleurs et de ce qui se passe de l'autre côté du mur. Donc voilà, donc je vous laisse vous présenter, monsieur, et je vous laisse la parole. Voilà.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier toute l'équipe et particulièrement Madame Dupont de m'avoir invité aujourd'hui. J'ai la tâche un peu compliquée de reprendre le flambeau après la pause déjeuner. J'espère que vous ne vous endormirez pas tous. Et donc voilà, donc je me présente, je m'appelle Yves Stevens et je suis psychologue de formation. Et comme vous devez sans doute l'entendre à mon accent, je viens de Belgique. Encore les Belges, il paraît que les Français, particulièrement les Parisiennes, ne savent plus se passer des Belges. On a toujours besoin d'un petit Belge près de chez soi. Ben voilà, c'est moi qui m'y colle aujourd'hui. Voilà. Donc, j'appartiens à une équipe qui s'appelle Kaleidos, qui est une extension de Parole d'enfant, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Kaleidos, c'est une équipe spécialisée dans la prise en charge des situations d'abus sexuels intrafamiliales. On travaille exclusivement sur mandat des autorités de l'aide à la jeunesse, ce qu'on appelle en Belgique l'aide à la jeunesse, c'est de l'aide ou de la protection de l'enfance. Alors, voilà. Bon, le titre de mon intervention, c'est « Peut-il redevenir un papa pour moi, malgré ce qu'il m'a fait ?» Donc là, je m'installe vraiment dans la continuité, dans l'espèce de chronologie de la matinée. C'est, idéalement, ce type de question intervient après le jugement, en fait. Et j'allais dire si possible, parce que je suis aux côtés de l'enfant, et si possible, après la condamnation. OK ? Voilà, donc j'ai prévu une petite introduction. La reconstruction du lien est-elle possible? Voir un peu les différents éléments à mettre en, auxquels il faut être attentif pour pouvoir penser cette reconstruction du lien. Et puis la rencontre en tant que telle, et puis une petite conclusion. Ça va? Voilà, encore des Belges, donc ça c'est fait. Équipe spécialisée, je vous l'ai dit aussi. Donc, travaille exclusivement ce mandat, oui, ça je l'ai dit aussi. Alors, ce que je dois vous dire aussi, c'est que on fait ce qu'on appelle de la co-intervention, donc on reçoit toujours les différents membres de la famille ensemble, à deux. C'est toujours la même équipe. Je suis le seul homme de l'équipe, donc c'est tout, en ce qui me concerne, quand je fais de la co-intervention, c'est toujours un homme, une femme, quoi. Et c'est le même duo d'intervenants qui reçoit l'ensemble des membres de la famille. L'enfant victime, l'auteur, la mère, les frères et les sœurs. OK ? Enfin, voilà. Donc, dans le contexte de notre mission, à la demande de l'enfant ou à la demande des autorités de l'aide à l'enfance, nous pouvons avoir pour mission d'évaluer l'opportunité d'une reprise de contact et ou d'une reconstruction du lien entre l'auteur et la victime, et la mise en place de cette reconstruction le cas échéant. Initialement, historiquement, notre position de service était de ne répondre à ce genre de sollicitation, de demande des autorités de l'aide à l'enfance qu'à deux conditions. La première, c'est que l'auteur reconnaisse les faits, et que la seconde, c'est que l'enfant manifeste un intérêt clair par rapport à cette reprise de contact. La réalité de terrain nous a amené à revoir cette position un peu idéale, à assouplir nos critères d'acceptation et arrondir les angles. En effet, il arrive souvent que la demande nous parvienne des autorités de l'aide à l'enfance dans un contexte où l'auteur a été acquitté dans le cadre de la procédure pénale ou dans un contexte où il est toujours dans le déni. Ça veut dire qu'on a pu également donc nous ouvrir à l'idée de penser à l'idée du fait que penser ce lien peut être au bénéfice de l'enfant indépendamment du positionnement de l'auteur. Par souci de clarté dans cet exposé, nous tiendrons au cas de figure où le père est l'auteur. Mais grosso modo, le dispositif est relativement identique quand l'auteur est un adolescent mineur. Alors, ma première porte d'entrée pour réfléchir à cette question, toujours dans mon introduction, c'est de pouvoir prendre du temps autour de la question des vécus du professionnel face à cette question et qui va immanquablement plonger le professionnel dans une espèce d'oscillation permanente. Et c'est comme un défi à relever pour le professionnel de pouvoir survivre, tenir, faire l'algue, si vous voulez, dans cette oscillation permanente. Ça veut dire que les vécus des intervenants, les vécus des professionnels confrontés à ces situations d'abus sexuels peuvent être très similaires aux vécus des victimes. Ça veut dire que pour pouvoir être en lien avec les auteurs, nous, les professionnels, on pourra avoir recours au même type de stratégie, au même type de mécanisme de défense ou de survie que les victimes. Ça veut dire être dans la négation, dans le détachement émotionnel, dans le clivage. Ça veut dire que les intervenants, même adéquatement formés, peuvent mettre en place des stratégies pour diminuer la souffrance émotionnelle qu'ils risquent de ressentir au contact de ce type de situation. Et donc, les professionnels risquent d'opérer une espèce de clivage entre ce qu'on appelle le tableau de jour et le tableau de nuit. Le tableau de jour, c'est une vision un peu idéalisée, où on minimise les faits, où on banalise un peu les faits. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Et puis quand même, il faut aller de l'avant, l'important, c'est l'avenir. Okay ? Et quand même, cet homme, il a peut-être fait ça, mais il est quand même sympa. On voit qu'il pleure beaucoup, ça veut dire qu'il est attaché à ses enfants. Vous voyez, un peu une espèce de... peut-être de minimisation de la gravité des faits. Et le tableau de nuit, c'est un peu l'inverse. Ce type est un monstre. C'est un malade, il ne peut être que toxique pour son enfant. L'ambivalence est bien souvent au cœur des vécus des protagonistes de l'abus sexuel. Et si nous fermons nous-mêmes la porte à nos émotions, ou si on en réduit l'intensité, nous ne permettons pas aux victimes, ni aux auteurs d'ailleurs, d'accéder aux leurs. Si nous sommes figés face à l'auteur dans des clivages, nous ne pourrons pas permettre aux victimes de dépasser ce qui les fige, et nous aurons difficilement accès à toute l'ambivalence qui peut les habiter par rapport à l'auteur. Qu'il s'agisse de colère, de peur, de dégoût, d'impuissance, de honte ou d'ambivalence, d'hésitation, ces situations nous éprouvent émotionnellement. Aussi contradictoires soient-ils, il nous faut réfléchir à la possibilité de pouvoir utiliser ces émotions brutes au service de la relation. Face à la problématique de l'abus sexuel intrafamilial, les professionnels peuvent se sentir impuissants, hésitants, perdus, tiraillés par la peur de mal faire. Est-ce qu'il faut éloigner l'enfant victime de sa famille ou faut-il plutôt donner une chance à la reconstruction de la famille ? Cette hésitation n'est pas le fait d'un manque d'expérience ou un manque de connaissance de la part du professionnel. Elle est le reflet de la complexité de la prise en charge. Plonger dans ces réalités, c'est accepter de perdre le nord, du moins pour un temps, avant d'accéder à un nouvel équilibre. Plonger dans ces réalités, c'est accepter d'être ballotté par la dialectique entre amour et haine, entre attachement et rejet, entre des envies de sauver, de guider, des envies de fuir, de rejeter, de tordre le cou. Comment gérer l'ambivalence suscitée par l'auteur, qui est à la fois bien souvent victimes et bourreaux. Comment le thérapeute doit-il pouvoir intégrer les deux facettes de cet homme ? Comment il va pouvoir concilier le monstre et l'être humain en lui ? Pour, quelque part pour se rapprocher du vécu de l'auteur, mais surtout aussi pour se rapprocher du vécu de l'enfant qui peut éprouver des difficultés, lui aussi, à faire cohabiter ces deux réalités. Ça veut dire qu'à mon sens, il est nécessaire que le professionnel puisse éprouver cette ambivalence afin de permettre à l'enfant d'accéder à la sienne dans un contexte protecteur et ainsi se donner les moyens de penser la situation dans sa complexité. Un risque serait de ne voir que le monstre dans l'auteur et de ne pas pouvoir l'envisager et de ne pouvoir l'envisager que sous le prisme de sa nocivité. Si on diabolise ce père nous-mêmes, on laisse penser à l'enfant qu'il est l'enfant d'un monstre. Et on le fige là-dedans plutôt que de l'accompagner à dépasser ce clivage. Un autre risque, à l'inverse si vous voulez, lorsqu'on accompagne ses pères, serait de trop tanguer ou trop basculer vers leur pôle victime, leur pôle humain, et de ne pas suffisamment mettre en balance leur versant pathologique et ou délictueux. Loin de correspondre à l'image que les médias véhiculent, ces hommes ne sont pas monstrueux et peuvent profondément nous toucher, même si les actes commis peuvent nous écœurer. Il est important de ne pas risquer d'exposer l'enfant à une nouvelle victimisation sous couvert d'un ressenti positif à l'égard de l'auteur, d'une idéologie du lien à tout prix ou par manque de vérité judiciaire. Ça veut dire qu'il est bon, de nouveau, à mon sens, il est bon que les professionnels puissent penser la question sans la défendre, sans l'esquiver, afin de pouvoir envisager les failles et les ressources de ce parent, les gains et les risques pour l'enfant. Je crois que c'est aussi important de rappeler que ces situations engendrent entre professionnels, des tensions importantes et des sentiments réciproques d'incompréhension, voire de disqualification. D'où l'intérêt de ce type de journée, évidemment, où on a un regard croisé. Avec des véhicules comme on a le sentiment qu'ils banalisent les problèmes, ou à l'inverse, ces professionnels-là, ils s'emballent vite, ils paniquent. Dans ces dossiers passionnels et complexes, les professionnels peuvent parfois s'entre-déchirer, se cliver en deux camps, les pour et les contre, pour ou contre le placement de l'enfant, pour ou contre le maintien en famille, pour ou contre la reprise de contact. Ce clivage parle bien moins des dysfonctionnements institutionnels que de la complexité de la problématique. Nous raisonnons, en tant que professionnels, dans cette dialectique entre rejet et intégration, entre peur et compassion, entre fuite et engagement. Conscients de cela, nous avons un devoir de concertation, de partage entre professionnels, de partage des analyses, des représentations, mais aussi des ressentis et des intimes convictions. La reconstruction d'un lien est-elle possible ? Alors, on va un peu prendre du temps sur le cadre. Comme je vous le disais tout à l'heure, on travaille exclusivement sous mandat d'autorité protectionnelle de l'aide à l'enfance. Et dans tous les cas, lorsqu'on a ce type de demande de la part des autorités, dans tous les cas, on s'octroie une marge de liberté par rapport au mandat qui nous est confié. Nous n'acceptons pas de mandat formulé en termes de reprise de contact. Ça veut dire qu'on passe toujours par une étape qu'on qualifie d'évaluation des possibilités de reconstruction d'un lien positif entre auteur et la victime. Et de l'évaluation des modalités pertinentes pour ce faire. C'est évidemment important, toujours dans le cadre du mandat, de pouvoir identifier d'où vient la demande. Comme je le disais dans l'introduction, la demande peut émerger de différentes instances. L'enfant, c'est l'idéal. La demande peut aussi venir du père. Elle peut venir de la maman ou d'autres personnes de la famille. Elle peut venir aussi du système judiciaire. Le père a été acquitté et donc il est en droit de réclamer une reprise de contact avec son enfant.
Okay. Donc, dans ce dispositif-là, souvent, on doit faire cohabiter la vérité judiciaire et la vérité protectionnelle. Dans les situations où les victimes ont été reconnues comme telles, et que l'instruction a mené à une sanction, la sanction ne veut toujours pas dire que l'auteur reconnaît les faits. Mais malheureusement, dans notre pratique, ces situations où les auteurs ont été sanctionnés, ça ne représente qu'une minorité des cas, en fait. Il est plus fréquent pour nous d'avoir à travailler à l'opportunité d'une reconstruction du lien entre un père et son enfant, alors qu'au niveau pénal, il n'y a pas eu suffisamment de preuves pour condamner l'auteur présumé, même si la parole de l'enfant a pu être évaluée comme hautement crédible. D'accord ? Ça veut dire que dans beaucoup de situations, pour nous, deux vérités antagonistes coexistent. La parole de l'enfant et la parole de l'adulte. La vérité de l'auteur et la vérité de l'enfant. La vérité du judiciaire et la vérité protectionnelle. Ça veut dire tout l'enjeu pour nous en tant que professionnels, c'est de se donner d'abord l'autorisation de faire exister le doute dans notre esprit et de ne pas vivre ce doute comme une entrave et de pouvoir oser le nommer et l'utiliser dans les situations de suspicion. Alors, recréer du lien, c'est quoi ? Bien, trois cas de figure. Recréer du lien entre l'auteur et la victime, ce n'est pas toujours les mettre en contact. Recréer du lien, ça peut passer aussi simplement par un questionnement de la place qu'occupe encore le papa dans le cœur ou dans la tête de l'enfant. Okay. Cette question peut en effet être travaillée sans contact effectif. Quelle place l'auteur continue-t-il d'occuper dans l'esprit de l'enfant au regard des abus et par-delà les abus ? De même, quelle place les enfants occupent-ils dans l'esprit de l'auteur ? Vers quoi souhaitent-ils ? À quoi souhaitent-ils arriver, l'un comme l'autre, j'ai envie de dire ? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire de ce lieu, de cet espace, de ce temps qui est mis à leur disposition ? Donc, premier cas de figure, si vous voulez, c'est questionner la place de l'autre. Deuxième cas de figure, ça peut se faire, donc recréer du lien, ça peut être évidemment au travers d'un seul contact. C'est une opportunité, ou en tout cas c'est une possibilité pour l'enfant de voir à minima la tête qu'il a, son auteur, de lui dire des choses ou de poser des questions. Et c'est aussi une opportunité pour le père, éventuellement, de répondre aux questions et aux besoins de son enfant. Recréer du lien, mais ça peut être mettre en place de manière plus structurelle des contacts ponctuels entre cet auteur et la victime. Ok ? Bon, pour pouvoir faire ça, il faut qu'on puisse évaluer les possibles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelles sont les ressources et les limites des différents protagonistes. Il s'agit d'entendre ici le concept d'évaluation dans sa dimension dynamique, à savoir les aspects mis au travail dans le lien avec chacun. Donc on ne fait pas une évaluation expertale, on ne fait pas une photographie, mais on fait plutôt une évaluation interventionniste, ça veut dire on les accompagne pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, pour voir comment ils peuvent réagir et peut-être se laisser bousculer. Donc, je ne vais pas nommer ici une liste de contre-indications à cette rencontre. En tout cas, moi, je ne suis pas en mesure de vous fournir un cadenas exhaustif qui aurait été préalablement établi. Il s'agit plutôt, en fonction du positionnement de la victime et en fonction du positionnement de l'auteur, d'évaluer le filet de sécurité à co-construire en vue de l'organisation de cette rencontre.
Ce filet de sécurité, on l'appelle aussi les garants de protection. Ça veut dire que c'est cette idée que la question du lien auteur-victime ne concerne pas que ces deux personnes-là, mais nécessite à nos yeux d'être envisagée d'un point de vue macro, en y intégrant le parent non-auteur, éventuellement la fratrie, et les personnes ressources pour l'enfant, qu'elles fassent partie de son entourage familial ou qu'il s'agisse de professionnels. Ces différents protagonistes concernés constituent ce qu'on pourrait appeler la garde rapprochée de l'enfant. Mais c'est un peu un vocabulaire guerrier, donc on se contentera de les appeler les garants de protection. OK ? Le cas échéant, ces différentes personnes pourraient être présentes à la rencontre aux côtés de l'enfant. Qui sera présent, ça va être pensé en équipe, mais ça va aussi être pensé avec l'enfant. Donc, c'est important de pouvoir évaluer où en est le parent non-agresseur qui reste, donc, pour rester dans le stéréotype, la maman, qui est le premier garant de protection à nos yeux. Cette personne peut osciller entre deux positions extrêmes qui seraient soit s'ancrer dans une espèce de mise en doute, voire un déni du discours de l'enfant par rapport au fait d'abus, et donc risquer éventuellement de participer au maintien d'une relation nocive entre l'auteur et la victime. À l'inverse, ce parent non-agresseur peut être aux côtés de l'enfant, croire l'enfant, et penser qu'il est bon d'éradiquer complètement ce père monstrueux, ce salopard, et ne jamais permettre à l'enfant de s'autoriser à penser à lui. Ne jamais permettre à l'enfant de s'autoriser aussi à redonner une place éventuelle à ce père dans sa vie, quel que soit le cheminement du père et de l'enfant. Donc, on va devoir aussi évaluer les capacités protectrices de ce parent non-agresseur. Qu'est-ce qu'il pense de cette idée éventuelle d'une reprise de contact? De quoi est-ce qu'il aurait peur? Quel risque ou quel bénéfice peut-il entrevoir pour son enfant par rapport à ce type de démarche? Okay. Il y a aussi cette question de la concertation avec les autres professionnels. Ça veut dire que ces situations complexes nécessitent une étroite et une fine collaboration entre les professionnels accompagnant les différents membres du système familial pour se forger un point de vue complexe sur la question de l'opportunité de la reconstruction du lien à l'image d'un kaléidoscope. Il s'agit de garder une souplesse dans les identifications. Souvent, les intervenants qui travaillent dans le monde de l'enfance ont plus de facilité à développer de l'empathie à l'égard de l'enfant que de l'auteur. Par contre, les professionnels qui travaillent avec les auteurs parfois ont plus d'aisance à développer l'empathie avec ceux-ci. Ces garants de protection nous semblent d'autant plus nécessaires que l'enfant, souvent, s'accroche à l'idée de revoir l'auteur, son père. Ça veut dire que souvent, même s'il a beaucoup de peur, il est préférable aux yeux d'un enfant d'avoir des racines fragiles, inadéquates, parfois même pourries, que de ne rien avoir du tout, et donc d'être plongé dans le néant. Donc, il y a tout un travail préalable, je ne saurais pas vous l'expliquer, parce que je vois que le temps file déjà, d'une pipe. Il y a tout un travail préalable avec l'enfant qu'on fait, où la première des questions qu'on va se poser, c'est est-ce que cet auteur est une figure d'attachement sécure? Ça veut dire, est-ce que ce père, même s'il a pu poser ses gestes d'abus, est-ce qu'à d'autres moments, il a pu être un papa adéquat? Il y a une petite gamine qui me disait, c'est comme si j'avais un papa de jour et un papa de nuit, en fait. Mon papa de jour, c'est celui qui met le mercurochrome quand je me suis fait mal au genou, et c'est celui qui me prend dans ses bras, c'est celui qui me console quand je pleure, et mon papa de lui, c'est celui qui me fait ses vilaines manières. Okay ?
Donc, ça veut dire qu'on va devoir se poser la question de où en est l'enfant dans sa compréhension de l'abus, en fait, et donc où il en est dans sa question de, dans la question de sa culpabilité, sa compréhension. Vous savez, comme moi, que les enfants ont une tendance naturelle à prendre sur eux la responsabilité des inadéquations, des dysfonctionnements ou des fragilités de leurs parents, en fait. Ça veut dire que dans les problématiques d'abus sexuels, ils ont tendance à se dire « Pourquoi moi ? Qu'est-ce qu'il y a de tordu en moi qui a fait qu'il m'a choisi ?» En fait, bon, je ne saurais pas développer davantage. Donc, dans ce travail préalable, on va devoir faire ce que Jean-Paul Meunier appelle « remettre le monde à l'endroit dans la tête de l'enfant ». Ça veut dire de remettre la responsabilité pleine et entière des abus sexuels sur les épaules de l'auteur adulte. Okay. Ça veut dire qu'il y aura aussi tout un travail qui prend parfois plusieurs mois pour aider l'enfant à réapprendre à faire confiance à ses sensations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'abus sexuel, les enfants, c'est comme si non seulement ils ont été trahis dans le lien affectif avec leurs parents, mais c'est comme s'ils avaient été, ils avaient une sensation, ils étaient plongés dans la confusion avec cette idée un peu de comment dire, de mon ressenti n'est pas le bon ressenti. Ça veut dire, souvent, ça dépend du discours tenu par l'auteur. Par exemple, l'auteur va dire « Je vois que ton corps aime bien ça ». Et l'enfant, il est là en disant « Mon papa me dit que j'aime bien ça, moi, je n'aime pas, mais puisque mon papa, il sait mieux que moi ce qui se passe, c'est que ça veut dire que je pense que je n'aime pas, mais que j'aime... » Enfin, vous voyez un peu l'état de confusion. Ça veut dire que une façon de survivre à cela, c'est de se couper de l'émotionnel, de se couper de son ressenti, en fait. Et donc, tout le travail avec ces enfants qui ont été victimisés, ça va être aussi de pouvoir réapprendre à ressentir et à faire confiance à leurs sensations. Ils doivent aussi sortir de la survie, je ne vais pas développer non plus. Alors, oui, par contre, je l'ai... oui, voilà. Je voudrais quand même prendre un peu de temps pour rappeler le fait que l'enjeu dans le travail avec ces enfants, ce n'est pas dans les notes, c'est de pouvoir l'aider à acquérir une liberté de pensée, de pouvoir aider les enfants, même à 5 ans, 6 ans, 7 ans, de pouvoir avoir un point de vue propre, en fait. Un point de vue qui peut être différent de l'autre en face de lui, même s'il aime beaucoup cet autre-là. Parce que l'enfant qui a été victime d'abus sexuels a été piégé dans une relation, le plus souvent affective, où il a été utilisé comme objet, et où ses besoins affectifs ont été tordus par l'adulte pour lui infliger de la sexualité d'adulte. Ça veut dire que non seulement il a perdu confiance et attention à l'égard de ses sensations, mais aussi à l'égard de ses envies. Donc l'enjeu dans le travail psychosocio-éducatif, c'est de lui redonner du pouvoir, si vous voulez, de pouvoir avoir un avis, un point de vue, et de pouvoir essayer de, enfin, en tout cas, d'être dans des relations avec certains adultes où son envie est entendue et prise en compte. Donc, il y a la question, évidemment, de manière plus précise, la question de la motivation de l'enfant par rapport à cette reprise de contact auteur-victime. Une des contre-indications à cette reprise de contact pourrait être le refus de l'enfant d'y participer. Mais j'ai envie de dire quoique, en fait. Parce que vous avez souvent les enfants, quand ils disent « je veux pas le revoir », ça veut dire « j'ai peur de le revoir ». Ça veut dire que c'est important d'avoir du temps pour dire « mais de quoi t'as peur ? C'est quoi le risque, en fait ?» Et de pouvoir construire un dispositif sécurisant avec lui. Ça veut dire qu'avant la rencontre, par exemple, avec l'enfant, on va choisir où il va s'asseoir, qui va être à côté de lui, qui ne sera pas, enfin, où on va placer l'auteur, qui on va inviter en plus de... qui on va inviter à cette rencontre qui pourra le sécuriser. Je me souviens d'un gamin qui était placé en institution. Il a dit « J'aimerais bien venir avec un éducateur, mais pas mon éducateur référent, un autre que j'aime vraiment bien. » Et il s'est choisi un éducateur qui faisait 2,10 m et 150 kilos, à mon avis. Et donc, c'était très, comme message, c'était très clair. Pas de problème, bienvenue. Pauvre homme, il ne savait plus très bien où se mettre après. Mais... Donc, comme je disais tout à l'heure, la motivation de l'enfant pour pouvoir revoir son parent auteur, ça pourrait être simplement de savoir quelle tête il a. Parce que quand l'enfant n'a plus vu l'auteur depuis 3 ans, 4 ans, eh bien, parfois, il s'imagine que lui n'a pas changé, mais par contre, il a un souvenir très vague, parfois, surtout si la maman a déchiré toutes les photos qui concernent le père, etc. Donc, c'est arrivé plusieurs fois que l'enfant, il dit... J'ai peur, si jamais je le croise dans la rue, que peut-être lui va me reconnaître, mais moi pas. Donc j'ai besoin de savoir sa tête. J'ai besoin de savoir à quoi il ressemble, si vous voulez. L'enfant peut aussi avoir besoin d'aller voir où en est l'adulte. Est-ce qu'il est capable ? Est-ce qu'il est enfin capable de reconnaître les faits ? Est-ce qu'il m'aime toujours, même si j'ai parlé ? Est-ce qu'il dit encore que ce qu'il m'a fait, c'est de ma faute ? Est-ce qu'il se rend compte donc maintenant du mal qu'il m'a fait ? L'enfant peut aussi avoir besoin de comprendre pourquoi son père a fait cela. Quelle est l'histoire de cet homme qui permet de mieux comprendre comment il a pu en arriver là ? Une autre motivation serait d'exprimer. Certains enfants ont besoin de revoir l'auteur, ne fût-ce qu'une fois, pour pouvoir déverser leur affect, la colère, la rage, la douleur, la trahison. Okay. Et de pouvoir se frotter à l'auteur dans un cadre sécurisé et lui permettre, c'est une façon de lui rendre un peu de son pouvoir à nouveau. Alors il y a cette délicate question du pardon également, mais ça va nécessiter trop de temps. Bon. Alors le travail avec l'auteur, là aussi, je vais juste... Le travail préalable avec l'auteur, c'est sûr qu'il y a tout un travail pour l'aider à reconnaître les faits. La reconnaissance est un processus graduel. Ce n'est pas une barrière qui s'ouvre ou qui se ferme. Souvent, la reconnaissance se fait par étapes, en fait. Et donc, l'auteur a besoin aussi d'un cadre très sécurisé pour arriver à prendre le risque de reconnaître les faits. J'ai travaillé pendant 10 ans dans une équipe spécialisée dans la prise en charge des auteurs adultes. Donc, à mi-temps, je travaillais avec les auteurs adultes et à mi-temps avec les enfants victimes. C'est très intéressant pour comprendre comment les stratégies d'emprise se construisent. Et j'étais devenu très, très fort pour les amener à reconnaître. Mais ça a un prix aussi, ça. Ça a un prix. Ça veut dire que j'avais un peu, comme mon cœur était plutôt du côté de la protection des enfants, mais j'avais un peu oublié que le déni, la négation, c'est aussi un des mécanismes de défense. Et que quand on reconnaît les faits, vous avez des hommes qui ne savent plus faire face psychologiquement et même physiquement aux agressions de la vie. Donc il y a tout un travail à faire sur le processus de reconnaissance, sur le processus de négation, pour pouvoir aussi leur permettre d'élaborer un peu sur le sentiment de culpabilité, les aider à passer d'une culpabilité égoïste à une culpabilité altruiste, de voir avec eux comment ils s'y sont pris, comment l'abus sexuel, c'est quelque chose qui se construit étape par étape, c'est pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Et de pouvoir remettre avec eux, mais je ne saurais pas développer ça maintenant, remettre avec eux une compréhension du passage à l'acte dans un contexte de vie plus large et dans une histoire de vie. L'enjeu, en somme toute, ça va être de pouvoir voir dans quelle mesure ils sont capables de développer de l'empathie à l'égard de leur enfant. Donc de pouvoir prendre du temps pour pouvoir évaluer leurs compétences parentales par-delà l'effet d'abus sexuel. Okay. Donc. Je me grouille. Hein. Donc, c'est bon, là ? Donc, là... oui, ça chauffe. Donc, la rencontre médiatisée, cette première rencontre, elle peut être vue comme une première étape ou comme une finalité en soi. Souvent, nous, on essaye de garder un maximum de liberté de manœuvre, en fait. On va toujours se voir une fois, ou on va se voir deux, trois fois, et on voit un peu ce que ça donne, en fait. OK ? Avant de pouvoir construire cette rencontre, il y a un positionnement éthique à développer. Ça veut dire que je pense que, quelque part, la priorité émotionnelle devra toujours être accordée à l'enfant. Ça veut dire qu'on est, des professionnels engagés, en tout cas dans notre cadre, nous, on est des professionnels engagés aux côtés de l'enfant. Ça veut dire qu'on va tout le temps être attentif à ramener la question de la protection et de la sécurité de l'enfant au centre du débat. Lors de cette rencontre-là, comme je vous disais tout à l'heure, on intervient, on fait toujours de la co-intervention. Il y en a un qui se retrouve, c'est souvent moi d'ailleurs, il y en a un qui se retrouve à faire un peu, à faire le chef d'orchestre, à gérer le bazar, et puis l'autre professionnel va se mettre aux côtés de l'enfant et être vraiment avoir toute son attention focalisée sur les vécus de ceux-ci. Une autre façon de pouvoir remettre la sécurité de l'enfant au centre du débat, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est de rendre à l'enfant du pouvoir. Donc, il va choisir où il va s'asseoir, qui va être à côté de lui, qui va participer à la rencontre. Est-ce qu'il préfère parler ou se taire? Et est-ce qu'il va faire la bise ou pas aux parents? Tout ça, c'est des questions qu'on aura posées avant. On prévoit aussi, on construit toujours un plan de repli au cas où c'est trop éprouvant. Ça veut dire que avec l'enfant, on établit des petits codes non verbaux entre nous. Si je dis que j'ai besoin de faire pipi, ça veut dire que c'est trop dur pour moi, hein, d'accord ? Et donc, vous voyez, on prévoit un peu des choses comme ça pour essayer de, à nouveau, pour augmenter son sentiment de sécurité. Alors, je ne sais pas vous présenter un canevas type de la rencontre, parce que ça dépend de trois éléments essentiels. Et pourquoi ? Madame Dupont.
Oui, exactement, monsieur.
Bon, on n'est pas là. C'est pas grave. Donc, le déroulement de la visite médiatisée va dépendre de trois éléments essentiels. Le premier, c'est les besoins de l'enfant qui ont été identifiés au préalable. Le second, ce sera la capacité du... Il y a quand même moyen de s'en sortir, non ? Ah oui, mais non, mais c'est normal, c'est parce qu'il n'y en a plus, en fait. Je ne l'ai pas mis. Donc, ça va. Donc, il y a... Donc, le déroulement de la visite médiatisée va dépendre de trois éléments essentiels. Les besoins de l'enfant, les capacités du père, et j'aime bien ramener ça sur le même niveau presque, c'est la sécurité du professionnel, en fait. Ça veut dire, si nous, en tant que professionnels, on n'est pas en sécurité, eh bien, on est... La première visite médiatisée que j'ai dû organiser, j'étais au taquet, quoi, comme on dit chez nous. Ça veut dire, j'étais vraiment comme un boxeur sur le ring. Hein. J'étais prêt à bondir s'il y avait le moindre problème. Donc, dans les situations à haut risque, parce que, évidemment, dans certaines situations, c'est plus complexe que dans d'autres, dans les situations à haut risque, le cadre de la visite devra ou pourra être extrêmement rigide, très contrôlé, très prévisible. Les intervenants garderont une vigilance, vraiment au niveau des échanges verbaux, mais aussi au niveau des échanges non-verbaux. Dans les situations plus sécurisées, plus cool, les professionnels pourront laisser un peu plus de place à la créativité de chacun. Ce qui est fondamental quand on organise ces rencontres médiatisées, c'est la capacité du professionnel à pouvoir être bienveillant avec chacun. Ça veut dire, pour prendre en compte le stress de chacun, il est très important que le déroulement de la séance soit explicité de façon très claire aux différents protagonistes et qu'on soit en mesure de dire pourquoi on fait ce qu'on fait. J'ai repris ici texto ce que j'ai été amené à dire une fois. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue à chacun et je regarde tout le monde, le père auteur y compris. Nous sommes aujourd'hui dans une situation, donc chacun est le bienvenu, nous sommes aujourd'hui dans une situation particulière et délicate
car c'est la première fois depuis 2 ans et demi qu'une rencontre a lieu entre Laura et son papa. On est tous un peu nerveux, et c'est bien normal. Nous allons, ma collègue et moi, tout mettre en œuvre pour que chacun puisse se sentir respecté. Pour cela, on va être particulièrement attentif à respecter le déroulement de la rencontre tel qu'on vous l'a expliqué au préalable. Si à un moment donné, c'est trop éprouvant pour l'un ou pour l'autre, on peut interrompre la séance à tout moment. On va essayer de veiller à ne pas ajouter de la souffrance à la souffrance. Voilà, c'est une façon, c'est une illustration de comment on peut rentrer, de comment on peut planter le décor. Aussi, un peu plus tard, l'objectif de la rencontre va être nommé de manière très claire. Par exemple, on a convenu avec le directeur de l'aide à l'enfance, on a convenu de nous voir 3 fois. Donc, il va y avoir 3 rencontres. Et ensuite, c'est lui qui décidera la suite à donner au travail. On va tout mettre en œuvre pour que ces rencontres se déroulent dans le respect de chacun. Donc, l'objectif premier de ces rencontres sera, en rétablissant une forme de communication, sera de sortir d'une dynamique de non-dit, de secret propre à l'abus sexuel. Ces rencontres sont également l'occasion de renommer l'interdit de l'inceste. Idéalement, ce sera au père à tenir ces propos-là. C'est aussi une occasion pour lui de se repositionner en tant qu'homme responsable. Sinon, en tout cas, nous, on va toujours dire au démarrage que si on est ici, c'est suite aux agissements sexuels inadéquats de monsieur à l'encontre des enfants. D'accord ? Donc, les thèmes abordés, après ce décor-là, ça va vraiment très tributaire des questions que l'enfant aura éventuellement à poser. Ces questions auront été préparées au préalable. Et on les aura écrites, peut-être il va les poser, peut-être il me demandera que ce soit moi qui les pose, ou ma collègue, ou la maman, en fonction de qui est là. Tout ça, c'est réfléchi avec l'enfant. Mais ça va aussi dépendre des questions de l'adulte, ou de la capacité plutôt de l'adulte à pouvoir prendre ses responsabilités par rapport à l'abus sexuel. C'est aussi très très important d'éviter les questions ou les réponses qui impliquent le temps. Par exemple, le père pourrait dire « Est-ce qu'on pourra se revoir ? Est-ce que tu pourras me pardonner un jour ?» Ça ne va pas. Ce sont des questions inacceptables, en fait. Parce que ça parle de son angoisse, de sa peur. Ça ne parle pas de l'ici et maintenant, de ce qui est en train de se vivre là. Pour l'instant, ce qu'il y a dessus, c'est que pour l'instant, il y a quelque chose de bloqué, monsieur. Mais on ne peut pas. OK. Idem pour le. Si l'enfant dit, mais est-ce qu'un jour tu pourras reconnaître le mal que tu m'as fait ? Alors, il peut le dire sur le ton de la colère, mais c'est pas une question. On essaie d'éviter les questions qui impliquent le long terme, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Okay ? De même, si l'enfant dit plus jamais je ne veux te revoir, okay, ça veut dire que pour l'instant, l'enfant dit qu'il est plus prêt à voir son parent. Okay ? Il ne faut pas piéger les enfants dans leurs paroles qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils sont émotionnellement pris. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, dans ce type de rencontre, le professionnel est très actif. Il va tenir le cadre, un peu comme la présidente qui tient le débat pendant un cours d'assises. J'ai fait le parallélisme à un moment donné où vraiment, l'intervenant, le professionnel, est responsable du climat dans la rencontre. Ça veut dire qu'il va être attentif au processus d'emprise, de séduction, d'instrumentalisation, de culpabilisation ou de distorsion de la réalité. La responsabilité du professionnel, c'est de faire respecter la règle du respect, justement. On n'accepte pas la violence physique et verbale. Ça veut dire que le jeune qui commencerait à injurier son père, j'interviendrai, en fait. Il peut dire qu'il a plein de colère, qu'il a de la rage, qu'il lui en veut, mais... Parce que cette forme de violence-là, ça n'aide personne. Enfin bon.
Par contre, dans les rendez-vous individuels, on peut y aller. Hein. Gros connard, je t'emmerde, Vous avez des enfants qui prennent 10 minutes à vous expliquer toutes les séances de torture qu'ils pourraient infliger à leur auteur. Et moi, je dis, continue, c'est bien. Ça fait partie de comment on peut déverser dans le cadre individuel. Dans ce type de rencontre médiatisée, c'est moins adéquat. Bon, alors, je vais conclure. Que faire de ce lien ? Ce qui est d'abord, pour pouvoir répondre à la suite, à donner à ce type de rencontre, ce qui est super important, c'est de pouvoir prendre le temps, de débriefer entre collègues, de pouvoir débriefer avec les professionnels, de pouvoir débriefer avec l'enfant, de pouvoir débriefer avec les membres de la famille, avec l'auteur aussi, de voir un peu comment l'enfant s'est senti, comment il s'est comporté pendant la rencontre, les jours après la rencontre, une semaine ou deux après. C'est aussi très... ça arrive très souvent dans ces situations qu'il y a, dans un premier temps, une recrudescence de la symptomatologie de l'enfant. Ça veut dire, s'il est tout bouleversé, s'il ne dort pas la nuit après la visite médiatisée, ça ne veut pas dire qu'il est traumatisé. Ça veut juste dire que cette rencontre l'a bousculé émotionnellement, ce qui est plutôt un signe de bonne santé mentale, quoi. Mais ça, évidemment, il peut être plus agité dans un premier temps. OK ? Donc, ce contact, ça peut être l'ébauche d'un remaillage progressif ou ça peut aussi aboutir à une rupture plus grande entre l'enfant et l'auteur. Ça veut dire que même si ça se passe mal, même si parfois il y a des rencontres qui se passent mal, mais parfois l'enfant peut sortir plus fort, en fait. Ça veut dire que parfois le père peut montrer toute son inadéquation devant témoin, en fait. Ça veut dire que ces inadéquations paternelles pourront permettre à l'enfant de choisir peut-être de se protéger un peu plus de ce lien tordu. Je ne peux vraiment pas compter sur lui. Ou je ne veux plus le voir où il est. Il est comme ça, cet homme-là, on ne le changera pas. Ça veut dire que si l'enfant a ce type de pensée, il peut se repositionner comme acteur de son histoire et non plus comme objet. Donc, juste pour clôturer, puis... Ouais. Voilà, j'ai envie de dire que l'enjeu dans ce type de visite médiatisée, c'est d'abord de pouvoir aider l'enfant à métaboliser le passé. Avant de savoir ce qu'il va faire de ce lien-là, dans l'ici et maintenant ou dans l'avenir, c'est de pouvoir un peu métaboliser le passé pour sortir d'un statut d'objet et redevenir un peu acteur de son histoire de vie. Voilà, je pense que j'ai un peu dépassé le temps, donc je vous remercie de votre attention.
Juste une minute. On va peut-être se réserver les questions. Vous n'avez pas de problème de rester ? Ou pas ? Bon, alors une ou deux questions. Le temps que l'enfant s'installe et vienne vers nous. Est-ce qu'il y a les micros où les gens parlent fort, s'il vous plaît. Allez-y.
Madame est assistante sociale à l'aide sociale à l'enfance à Paris. Madame explique que c'est bien beau tout ce que j'ai raconté, mais qu'elle, dans sa pratique de terrain, souvent elle constate que pendant tout le temps de l'instruction, il y a des visites médiatisées qui sont organisées, il y a un contact qui est maintenu entre l'auteur et la victime.
Alors,
qui est très encadré et où normalement ils ne peuvent pas parler des faits. Il va falloir que vous arriviez à votre question, sinon, parce que le reste de la salle n'entend rien.
Quoi faire avant que le jugement soit fait ? Quelle réponse attendre après ?
Alors, j'ai un avis personnel, mais je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt que je partage ça avec vous. Ce sur quoi je souhaite attirer votre attention, c'est que pour moi, ce n'est pas la même chose. Des visites médiatisées où il y a un lien qui est maintenu et le moment où on va reparler, on va mettre des mots sur ce qui s'est passé et où, quelque part, l'enfant, accompagné des professionnels, va pouvoir décider de ce qu'il va faire de ce lien-là, en fait. de comment il va rentrer en résistance, de comment il va l'envoyer péter, ou de comment il va pardonner ou aller vers, ou s'accrocher au côté saint de son papa. C'est deux choses différentes. Maintenant, pour moi, le travail reste le même, même s'il y a eu des rencontres ponctuelles. En fait. Voilà. Je ne sais pas si...
Une autre question et après on passe à l'autre intervention.
Oui, bonjour, je suis psychologue en libéral en fait. Et vous avez parlé tout à l'heure du doute, de justement tous les cas où, où finalement on va rester dans le doute, où l'auteur va peut-être rester sur une certaine dénégation, voire un déni. Et vous disiez comment que vous pouviez utiliser ce doute pour travailler dessus. J'aurais voulu que vous nous en parliez un petit peu plus parce que cette confusion-là, Elle est souvent assez centrale.
Mais c'est comment, pour pouvoir répondre à cette, ça nécessiterait beaucoup de temps, mais pour pouvoir répondre complètement à cette question, c'est comment nous, en tant que professionnels aussi, on se laisse piéger, on se piège nous-mêmes par la vérité judiciaire. C'est, on a comme si tout le processus d'aide de l'enfant dépendait de la décision judiciaire. Et si la décision judiciaire, c'est l'acquittement, eh bien, certains professionnels qui interviennent après disent « acquitter, ça veut dire qu'il n'a pas commis les faits ». Ben non, ça ne veut pas dire ça, l'acquittement. L'acquittement, ça veut dire que la justice n'a pas eu suffisamment d'éléments de preuve pour pouvoir condamner cette personne au-delà de tout doute, en fait. Alors, ça, je vous le rappelle à vous, et je suis capable de le rappeler calmement, posément, à l'auteur qui vient en disant « Je suis acquitté, ça veut dire que j'ai rien fait. » Et non, ça ne veut pas dire ça. Ok, donc le doute, c'est de pouvoir dire « Ok, vous, vous dites que vous n'avez rien fait. Votre enfant a été entendu, elle a été reconnue aussi comme crédible. La décision judiciaire, c'est l'acquittement. » Et donc, et nous, en tant que professionnels, on est au milieu de deux vérités, en fait. Et donc, peut-être... Ça veut dire que peut-être, effectivement, vous n'avez pas commis ces gestes d'abus sexuels, auquel cas vous êtes dans une situation dramatique. Mais peut-être vous les avez posés, mais que vous êtes dans l'incapacité pour l'instant de pouvoir le reconnaître. Et donc, et moi, je ne sais pas dans quel... Je suis obligé d'avancer en me disant que peut-être je suis en train de vous torturer ou peut-être je suis en train de vous aider. Je ne sais pas. Mais si je ne peux pas assumer cette position de doute, je ne peux pas faire ce travail-là. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer à l'intervention suivante.